Alpha. Love FM.
La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz, avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Ce samedi 1er mai sur 9 FM, dans la biodiversité samedi, on retrouve une proposition du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. On part à la découverte d'une réserve naturelle régionale, le polder de Sébastopol, et de son environnement proche, la baie de Bourgneuf, beau réservoir de biodiversité, notamment site privilégié pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Bonjour Régis Marty.
Bonjour.
On pousse aussi l'apport de votre terrain d'action. Vous faites partie du pôle environnement territorial de la Comcom de l'île de Noirmoutier. Vous êtes responsable du service gestion et développement des marais de la réserve du polder de Sébastopol. Je vous ai reçu au mois de décembre déjà. On vous retrouve. On peut rappeler un petit peu votre parcours professionnel?
J'ai d'abord, en termes d'études, je suis allé travailler du côté de Dinard jusqu'en thèse. Et en revenant dans les années 2000, mon premier poste a été... La réserve, alors qui n'était pas encore une réserve à l'époque. Donc le polder de Sébastopol, où j'ai fait une première étude et j'ai été embauché par la communauté de communes pour mener à bien les plans de gestion qui sont intervenus depuis.
Donc il y a 20 ans, si je comprends bien.
Il y a 20 ans, exactement. Oui, il y a 20 ans, ça commence à dater tout ça. Mais oui, il y a 20 ans. Et au départ, donc évidemment, le polder était bien une propriété de la communauté de communes, mais sans avoir un statut de réserve naturelle. Donc il est acquis depuis 2008.
Vous parlez d'une thèse, vous faisiez quoi exactement comme étude ?
Je travaillais sur les vers marins, donc pas grand chose à voir. Donc un petit ver qu'on appelle le Néréis, que les pêcheurs, même locaux, connaissent très bien, et que je retrouve dans la réserve aussi. Donc voilà, une petite connaissance que je retrouve assez fréquemment. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment une étude qui était très différente, très spécialisée, plutôt invertébrée, marin.
Et donc on a compris, vous avez vu effectivement le polder être protégé au fil des ans. Quelles sont vos principales missions aujourd'hui, notamment sur ce site ?
Alors sur ce site, en fait, les missions sont variées. Il y a de la gestion courante du site, puisqu'on a un plan de gestion, donc on a des actions à mener, donc on doit atteindre des objectifs, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc on a des actions de gestion courante, j'ai un collègue qui travaille avec moi sur la réserve. On a un peu de la police de l'environnement, puisqu'il y a quelques comportements qui peuvent être gênants de temps en temps. Et puis après, on a tout ce qui est inventaire, donc notamment les oiseaux d'eau, mais il y a aussi des inventaires sur les invertébrés, les papillons, de temps en temps les libellules. Là, cette année, on va travailler sur deux coccinelles d'intérêt patrimonial. Donc, on va focaliser sur leur... essayer de mieux localiser leur présence sur la réserve. Et puis, on a aussi, depuis un an, c'est un peu compliqué, on a aussi l'accueil du public. Donc, on le fait avec la LPO, avec des visites grand public. Et puis, on le fait, nous, en interne, auprès des scolaires et des universitaires, dans le cas des classes de mer. Donc cette année, peut-être que ça va redémarrer.
Ça m'interpelle par exemple, qu'est-ce qui vous dit on va aujourd'hui, cette année, compter le nombre de coccinelles, voir un peu où elles vivent ?
Alors là, c'est en fait, le plan de gestion, c'est un plan sur 6 ans. Au fur et à mesure des inventaires qu'on réalise, on fait ressortir des espèces ou des habitats, des fois, dont on voit qu'il y a un intérêt patrimonial. Et puis qu'on voit que la réserve, donc le polder Sébastopol, a un rôle à jouer réellement. Il faut faire ce choix-là, il faut aussi le voir à une échelle beaucoup plus large. Et en fonction de ces plusieurs critères qu'on va combiner, on va faire un choix sur les 6 années et on va focaliser peut-être sur, effectivement là c'est des coccinelles, mais ça peut être pourquoi pas quelques araignées ou vraiment des habitats en général, donc quelque chose de plus général. Après, les oiseaux, comme ça a toujours été un sujet de départ pour la création de la réserve, voilà, cette thématique-là, oiseaux d'eau, accueil des oiseaux d'eau, est récurrente, tous les plans de gestion, elle revient parce que, voilà, elle a réellement, elle est la marque de fabrique de la réserve.
On va justement se focaliser un petit peu sur eux aujourd'hui, mais rappelons un petit peu l'histoire du polder, de sa formation. C'est l'homme qui est à l'origine du polder de Sébastopol.
Oui, comme beaucoup de choses sur le marais breton et l'île de Noirmoutier. Le polder de Sébastopol, donc polder, ça veut dire c'est un terrain qui a été conquis sur la mer. Donc c'est-à-dire qu'on a créé des digues sur de la vasière et après avoir asséché le terrain, mais généralement on le cultive, c'était ça l'objectif d'un polder. Donc sur le polder de Sébastopol, il y a bien eu de la culture à un moment, de l'agriculture. Et puis après, au fur et à mesure, donc 1856, la création de du polder. Et puis après, au fur et à mesure, le terrain était assez compliqué, très salé en fait. La gestion des niveaux d'eau n'était pas simple. L'agriculture en tant que telle est plutôt partie sur l'élevage dans les années 20, dans les années 30. Il y a eu encore un peu d'agriculture dessus. Et puis au fur et à mesure, il y a eu un abandon relatif du site. Et c'est dans les années 85-86 qu'on a commencé à réfléchir à une autre fonctionnalité de la du polder. Donc on a perdu un peu la partie agronomique réellement. On a toujours de l'élevage, hein, on a toujours de la vache maraîchine à venir pâturer les prairies. Mais voilà, la partie agricole réellement a été mise de côté pour une partie plutôt à visée écologique.
Justement, sa fonction, là, vous dites une autre fonction, un autre objectif. Aujourd'hui, c'est une propriété de la communauté de communes, hein, ce polder. Mmh. Quel est son intérêt, son importance? Pourquoi la Comcom effectivement investit, hein, et protège ce site?
Ça, c'est un des éléments, on va dire, fort d'une collectivité, effectivement, c'est d'avoir pris déjà très en amont, depuis les années 80-90, cette réflexion de conservation de patrimoine naturel. C'est vrai que c'est pas si fréquent que ça, c'est souvent des associations qui prennent en charge ce type de gestion. Mais dès le départ, la collectivité a souhaité, effectivement, en faire un site un peu privilégié. Et puis au fur et à mesure de la connaissance et des plans de gestion, aussi du partenariat avec la région au niveau des réserves naturelles régionales, et bien au fur et à mesure le site a encore pris de l'ampleur, et donc la collectivité a poursuivi son action et est toujours dans cette dynamique là donc c'est vraiment un site de la communauté de communes, effectivement.
Donc RNR, réserve naturelle régionale, voilà. Ça implique une certaine protection. Ça implique quoi précisément?
Ça implique quoi? Ça implique, vis-à-vis des gens qui vont visiter ce site, d'avoir un respect de l'endroit où ils vont rentrer. C'est de l'argent public, donc c'est de l'argent public pour de la préservation de l'environnement. Donc les gens qui rentrent dans la réserve se doivent normalement d'avoir un minimum de respect de ce qui s'y fait, un respect aussi c'est aussi leur patrimoine, leur biodiversité. Donc c'est aussi respecter ce qui est sur cette réserve. C'est vrai qu'on est à proximité du bois, donc il y a beaucoup de monde à rentrer sur la réserve de manière plutôt involontaire. Et c'est là où il faut qu'on soit là, présent, pour expliquer, puisque les gens comprennent pas trop en fait pourquoi tout d'un coup on a une grosse colonie d'oiseaux d'eau, par exemple, alors qu'il n'y a pas un oiseau pendant 3-4 kilomètres de piste cyclable, et on tombe sur quelque chose de très très ponctuel, très très localisé. Donc il faut être là pour expliquer et le rôle du site.
Et alors vous y êtes tous les jours?
À cette époque-là, oui. Voilà. À cette époque-là, on y est tous les jours. L'hiver, c'est un peu moins fréquent, mais à cette époque-là, oui. À partir du mois de, on va dire d'avril, toute la faune se relance, la flore aussi. Donc évidemment, il faut être là pour simplement déjà avoir une idée de comment se relance la biodiversité à cette période-là. C'est un moment clé, hein, quand même, pour beaucoup d'espèces. On commence à faire les inventaires, et puis là, il faut être aussi là parce qu'il y a de plus en plus de monde à se balader sur la réserve, donc être là pour informer, tout simplement.
Donc on vous y retrouve justement, et vous n'êtes pas seul, vous l'avez dit, des milliers d'oiseaux sont présents sur le polder, mais aussi évidemment dans la baie de Bourgneuf. Ils s'y reproduisent, ils y nichent. On en parle dans quelques minutes après une pause musicale.
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle, la douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène, le plus beau des corps de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine, mais ses désirs me retiennent et je cours. Faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour.
qui décèle tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction, une seconde avant l'action.
Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder, abîmée ou belle, dans ce carrousel.
Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel.
Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel.
Sur 9 FM ce samedi 1er mai, premier samedi du mois, on retrouve la biodiversité samedi. Aujourd'hui, Régis Marty, vous travaillez, on le rappelle, pour le pôle environnement territorial de la Comcom de l'île de Noirmoutier, responsable du service gestion et développement des marais de la réserve du polder de Sébastopol. On s'y retrouve, une réserve très appréciée des humains, mais aussi des oiseaux. Quels sont les oiseaux qu'on retrouve chaque année ?
Alors, chaque année, on retrouve notamment une grosse colonie qu'on appelle l'oiseau d'eau. Dans cette colonie, il va y avoir deux espèces de mouettes. Donc, une mouette, la mouette rieuse, la mouette de Gaston Lagaffe, voilà, la plus classique, on va dire. Et puis, une mouette qu'on appelle mélanocéphale, c'est-à-dire qu'elle a une tête très, très noire, donc elle se distingue un peu de la mouette rieuse. Et puis, deux sternes, sterne Cogec et sterne Pierre Garin. Donc, les sternes, c'est ce qu'on appelle les hirondelles de mer qui plongent en mer pour aller chercher du poisson. Voilà, ces quatre espèces font le gros, on va dire, de la colonie. Et puis, vient en complément des avocettes élégantes, un peu de chevalier gambette. Et puis, voilà. Pour le polder de Sébastopol, c'est ce grand groupe-là, mouettes et sternes, qui forment le gros de la colonie.
Et on parle de milliers d'oiseaux.
On parle de milliers d'oiseaux dans le sens que, par exemple, l'année dernière, on est monté à pas loin de 7000 couples nicheurs, ce qui veut dire 14000 oiseaux, plus après les petits. Donc, évidemment, tout le monde n'arrive pas au bout de la reproduction. Mais ça fait effectivement une grosse, grosse colonie. C'est l'une des plus importantes en France, puisqu'on a atteint à peu près un tiers de la population française de mouettes mélanocéphales ou de sternes Cogec. Donc voilà, il y a un rôle très fort à jouer à l'échelle nationale.
Bon, on va essayer de comprendre pourquoi ce site est si important pour eux. D'ailleurs, vous nous dites, sur l'ensemble du territoire, on a beaucoup d'oiseaux, notamment les limicoles, mais on a quelques sites protégés qui vraiment jouent un rôle clé pour certaines espèces.
Ouais. Alors, il y a des espèces qui sont très, on va dire, plutôt marées, comme la barge à queue noire, le vanneau huppé, le chevalier gambette, ou même la vaucette élégante, qui sont un peu éclatées dans la partie marais, plutôt marais salé pour la vaucette et marais doux pour la barge à queue noire. La barge à queue noire, c'est aussi très très localisé quand même, à l'échelle du marais. Tout le marais n'a pas de population de barge à queue noire. Mais la baie de Bourgneuf, enfin le marais breton, joue un rôle très important au niveau national pour ces espèces. Et puis d'autres espèces préfèrent se regrouper. Voilà, tout simplement, être en grand nombre. Et elles vont pas obligatoirement s'éclater entre plusieurs sites, mais elles vont prendre un site. Et généralement, elles vont rester, quasiment toute la période de reproduction sur ce site. Alors, en site, au niveau de la baie de Bourgneuf, il y a trois grands sites, voire quatre, qui jouent un rôle et qui sont, on va dire, protégés. Donc, la réserve naturelle régionale, enfin nationale des marais du Mulhambourg, donc au nord de l'île de Noirmoutier. La réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol. Il y a ce qu'on appelle la lagune du Dain, qui est géré par la Fédération de chasse de Vendée. Et puis, il y a aussi le Davio, où il y a une ENS, un espace naturel sensible du département, qui a aussi un rôle à jouer, notamment sur la vaucette et une des mouettes. Voilà.
Et on voit qu'en fait, en protégeant le territoire, on protège aussi ces espèces qui finalement s'y plaisent.
Alors oui, il faut effectivement... Alors, il y a des sites qu'il faut protéger de manière stricte, entre guillemets, et y avoir un œil bien assidu quand même, ne pas laisser tomber tout ça. L'objectif pour nous, c'est d'avoir, si un site ne fonctionne pas, qu'il y ait une possibilité de se reporter à côté. Alors ça, on le voit à l'échelle de la baie de Bourgneuf, mais en fait, il faut le voir aussi à une échelle beaucoup plus large, quasiment toute la façade atlantique. Quand, par exemple, l'année dernière, la reproduction s'est mal passée au niveau des sternes, au niveau du banc d'Arguin, à Arcachon, on a vu qu'il y a eu un report de ces sternes sur le polder de Sébastopol. Donc, voilà, il faut qu'il y ait, tout le long de la côte atlantique, des sites qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas tous les ans, c'est pas l'objectif, mais dès qu'il y a un problème, qu'il y ait au moins un site qui puisse fonctionner pour que ces populations puissent perdurer. C'est des oiseaux qui vivent pour les sternes et les mouettes plusieurs dizaines d'années, en tout cas voilà 15-20 ans. C'est pas grave en soi que ça fonctionne pas sur un site, voilà, mais sur la période de vie, il faut qu'il y ait un certain nombre de fois de réussite de reproduction. Donc, ça fonctionne comme ça. C'est des espèces qui sont en grand nombre. Il faut pouvoir conserver ces sites à une échelle beaucoup plus large que la baie de Bourgneuf.
Alors, j'ai une question sans doute un peu bête, mais vous nous parlez de plein d'espèces. On commence un petit peu à être aussi familier avec ces noms. Vous les reconnaissez toutes ?
Alors, c'est pas simple pour notamment à cette période-là, parce que les sternes et les mouettes se ressemblent beaucoup, puisque les quatre espèces-là sont toutes blanches avec une tête noire. Donc après, il faut regarder, on va dire, le corps, comment elles se tiennent, la forme du bec. Un bec pointu, c'est une sterne. Un bec un peu plus rond, ça va être la mouette. Après, il y a des petits éléments qui permettent de les différencier. C'est pas obligatoirement, voilà, c'est la couleur de la tête, c'est ce qu'on appelle le chapeau qui va plus ou moins loin derrière la tête. Il y a une huppe pour la sterne Kojek. Donc tous ces éléments-là permettent de les différencier, même si de prime abord, comme ça, de loin, on voit voilà une masse blanche et beaucoup de cris. Avec les cris, on arrive aussi à bien distinguer les espèces.
Et au fil des ans, voilà, comment vous avez appris à les distinguer, à les reconnaître aussi aisément aujourd'hui ?
Ben c'est force de simplement. Alors ces espèces-là n'existaient pas quand moi je suis arrivé sur la réserve. Quand je suis arrivé, il y avait un peu d'avocette élégante, et au fur et à mesure, alors, les travaux avaient été faits dans les années 2000, et le temps que ça se lance et qu'on refasse aussi des travaux complémentaires, la colonie s'est progressivement, a progressivement gonflé. Donc on est parti de la vaucette, qui était une espèce classique qui aime bien ces sites neufs. Et puis après, la mouettrieuse et la sterne Pierre-Guérin sont arrivées en petits groupes. Puis après, on ne s'attendait pas à voir la mouette mélanocéphale, mais elle est arrivée. Elle a pris le gros de ses effectifs. Et puis derrière, les sternes Kojek sont arrivées aussi. Donc il y a eu une succession comme ça d'espèces. Et en fait, il y a une espèce d'effet d'emballement. Dès qu'il y a une espèce qui s'installe, elle attire les autres, qui en passage vont dire, ben voilà, j'entends quelque chose, il se passe quelque chose ici, je vais voir. Ça me plaît pas, mais en tout cas, je vais voir. Et voilà. Et puis, étant donné que la reproduction depuis une dizaine d'années se passe bien sur la réserve, ben les jeunes qui nichent sur la réserve reviennent sur la réserve. On bague certains oiseaux, donc ça nous permet de savoir qui revient sur site et comment ça se passe.
Oui, il y a un vrai suivi des espèces et du nombre d'oiseaux présents.
Voilà, là actuellement, il y a des gens qui sont sur la réserve, qui regardent les bagues. Alors c'est des bagues couleurs maintenant qu'on met, des bagues couleurs avec des codes. Et le code, c'est la carte d'identité d'oiseau. Il n'y a qu'un oiseau dans le monde qui a ce code-là. Donc alphanumérique, c'est-à-dire des lettres et des chiffres. Et là, ils regardent les bagues pour essayer de mieux comprendre effectivement ce qu'on appelle le turnover. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui tournent, qui changent, qui vont, pourquoi pas en Belgique, et puis deux jours plus tard se retrouver dans le pôle d'air. Donc c'est essayer de voir un peu comment se fait ces déplacements. Et puis à un moment, il faut qu'ils fassent un choix. Donc pourquoi ils font le choix effectivement d'un site plutôt que d'un autre ? C'est peut-être que du hasard, mais pour l'instant, on essaye de mieux comprendre ça.
En tout cas, on apprend toujours plein de choses avec vous, Régis. Un mot, justement, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le site du polder de Sébastopol, c'est un site de reproduction, c'est un site où les oiseaux viennent nicher, et ça, c'est quand même particulier.
Oui, c'est un site, alors voilà, on a un site de reproduction, mais il faut savoir que tous ces oiseaux, enfin, à part la vaucette, qui s'alimente un peu sur la réserve, tous les autres oiseaux s'alimentent à l'extérieur de la réserve. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est vraiment que le site de ponte, et on va dire de développement des jeunes, mais toute la nourriture se prend à l'extérieur. Donc pour les mouettes mélanocéphales par exemple, elles se nourrissent essentiellement de vers de terre. Alors là actuellement c'est très compliqué vu la sécheresse, donc de vers de terre, d'insectes, c'est pareil, il fait relativement froid, donc il n'y a pas beaucoup d'insectes ces temps-ci. Et puis après dès qu'il va y avoir la fauche par exemple, ils vont en profiter aussi de derrière les barres de fauche pour aller muloter, donc récupérer quelques mulots. Puis après ils vont passer encore à autre chose, des fruits, voilà. Donc pour cette espèce c'est très éclectique comme alimentation, mais elle trouve quand même au sein de la baie de Bourgneuf et du Marais Breton des solutions, mais elles peuvent aller plus loin. On sait que là actuellement elles vont sans doute du côté de Chaland, voire encore plus loin, chercher des vers de terre derrière les tracteurs. Et puis les sternes par contre, elles sont uniquement, enfin quasi exclusivement piscivores, c'est-à-dire qu'elles mangent que du poisson. Et là par contre il faut qu'elles trouvent leur nourriture côté mer. Donc côté mer, ça veut dire qu'elles peuvent là aussi faire une dizaine de kilomètres pour aller chercher. Alors essentiellement ici ça va être des sardines et des anchois pour la majorité de leur alimentation.
Voilà, ça implique une interdépendance entre les territoires, les activités aussi humaines. Alors justement on en parle, Régis ne bougez pas et auditeurs ne bougez pas, après une nouvelle pause musicale.
Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Oui, j'en ai essuyé des défaites. Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile.
Tomber, se relever, toujours positivé et rester motivé. Tomber, se relever, toujours positivé. Et en toutes circonstances, je garde le sourire. Place à de nouveaux horizons. Face à l'impasse, forçons et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positivé et rester motivé.
Toujours, toujours.
Tomber, se relever, toujours positivé et en toutes circonstances, je garde le sourire. Sourire en toutes circonstances, même si ça me blesse, je préfère courir à l'indifférence et je garde le sourire.
De la biodiversité samedi, ce samedi 1er mai. Ce matin, nous sommes avec Régis Marty, qui était déjà venu en mois de décembre, qui revient nous parler notamment du polder de Sébastopol, des oiseaux qui y nichent. Vous avez évoqué le fait qu'ils s'installaient sur le polder, mais qu'ils allaient chercher à manger un petit peu ailleurs. Mais comment on explique que le polder soit si propice justement à la nidification ?
Alors, des travaux ont été réalisés dans les années 2000, avec l'aide de la LPO à l'époque, pour essayer de créer ce qu'on appelle des lagunes, donc c'est-à-dire des systèmes assez vastes avec des îlots, donc détachés de la berge pour éviter la prédation. Donc c'est des îlots entourés d'eau et assez ouverts, et ce qui fait que ces oiseaux, voilà, sont vraiment affiliés à ce type de milieu pour la reproduction. Donc effectivement, ils ont choisi le polder de Sébastopol. Alors soit on voit le côté positif, on dit ben c'est parce que c'est super et tout se passe bien là-bas. Soit on voit le côté un peu moins positif et on dit ben c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc il y a sans doute des deux. C'est-à-dire que sans doute que le polder offre une certaine sécurité pour eux, parce que là il faut rester. S'ils arrivent là, ils vont commencer à pondre maintenant. Ça veut dire qu'on est allé début mai. Il faut 3 semaines, 1 mois, ce qu'on appelle d'incubation. Donc le temps que les œufs et les jeunes éclosent. Ça veut dire qu'il y a encore, on va dire, 4 semaines pour que les jeunes soient à l'envol, donc qu'ils puissent quitter le site. Donc ça veut dire qu'on doit rester quasiment 8 à 10 semaines sur le même site. Ce qui veut dire qu'en termes de prédation, de dérangement, il faut que tout se passe bien, enfin voilà, qu'il n'y ait pas trop de phénomènes perturbateurs pendant quasiment 10 semaines, donc c'est un peu long, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la réserve se prête a priori pour l'instant bien à ça, mais il faut savoir que ces oiseaux-là sont arrivés, on va dire, la mi-juillet, fin juillet, il n'y a plus personne. Donc on est vraiment, voilà, c'est vraiment le site de reproduction ou de parade nuptiale. Ça arrive qu'en fait on voit notamment arriver à partir de mars les oiseaux, ils viennent, ils paradent, mais c'est pas ceux qui paradent qui vont se reproduire, hein. Ils peuvent parader ici et puis aller se reproduire en Belgique ou voire même dans les pays de l'Est, puisqu'on a l'inverse. On a des oiseaux des pays de l'Est qui viennent nicher sur la réserve, et on a des oiseaux italiens, des oiseaux britanniques, enfin voilà, tout est mixé là-dedans. Selon les théories, entre guillemets, on considère que les oiseaux, l'hiver pour les mouettes, hein, mélanocéphales, leur comportement là de changer de colonie tout le temps pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois, ben c'est la recherche du partenaire. C'est-à-dire qu'elles sont assez fidèles. au partenaire. Et comme elle se quitte pendant toute la période hivernale, mais après il faut retrouver le partenaire. Donc a priori, ça serait l'idée, d'où les études qu'on mène actuellement. L'idée de, voilà, on essaie de retrouver au sein des différents sites potentiels de reproduction, de se retrouver et après de, voilà, de focaliser sur un endroit en particulier.
On retrouve des couples comme ça chaque année ?
Oui, ouais, y a notamment une Italienne qui est en concubinage depuis 4-5 ans avec une Vendéenne, puisque la Vendéenne, voilà, elle était, c'est une mouette qui est née sur la réserve. Donc voilà, on a cette Italienne qui revient tous les ans avec sa, voilà, sa concubine et y a pas de problème, on les retrouve régulièrement.
J'adore tout ce qu'on apprend avec vous. On sait combien, on le voit, l'activité humaine est importante. Voilà, c'est aussi par tous ces travaux que vous avez permis à ces oiseaux de venir en grand nombre. Vous les avez évoqué aussi, l'alimentation de ces oiseaux, donc vers de terre, aussi des poissons. Donc l'activité humaine agricole, de pêche, elles ont un impact sur la biodiversité. On sait que les agriculteurs et les pêcheurs font aussi des efforts pour mettre en place des outils de préservation de la biodiversité. Ouais, vous travaillez aussi avec eux, notamment pour vous, peut-être les agriculteurs.
Alors, on ne travaille pas obligatoirement avec eux, mais c'est vrai qu'on a un regard quand même assez précis sur leur activité, parce que c'est vrai qu'on est totalement dépendant d'eux. C'est pareil, on parle souvent de réserve comme site sous cloche, voilà. En fait, on n'est pas sous cloche, on est totalement dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on n'est pas sous cloche, d'où l'intérêt d'avoir des endroits beaucoup plus larges, des réflexions de gestion à une échelle beaucoup plus large, donc type Natura 2000, où là, réellement, on parle d'activité humaine et ça vient totalement conforter le travail qui est fait sur la réserve, voire, c'est ce que je disais, à une distance beaucoup plus large, puisqu'on va sortir du site Natura 2000, puisqu'il va falloir aller, si on voulait réellement réfléchir à tout ça, c'est aller jusqu'à sans doute Grandlieu en partie ou du côté de Chaland pour la partie agricole. Donc oui, voilà, la pratique agricole, pareil, les périodes de fauche sont aussi intéressantes. Voilà, si souvent on fauche tout en même temps sur une période très très courte, donc ça peut créer des problématiques, c'est-à-dire que la nourriture est à foison sur un temps de 2 semaines à peu près, et si les jeunes sont assez âgés pour pouvoir se nourrir de micro-mammifères, ben, bingo, ça marche, et là ça grandit très très vite. Par contre, si c'est pas le cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu éclosion ou si les jeunes sont trop petits, la nourriture correspond pas aux jeunes, et là dans ce cas-là, ben, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que les adultes ramènent la nourriture, mais la nourriture n'est pas ne peut pas être ingurgitée par le jeune. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Après, au niveau pêche, j'ai moins de connaissances là-dessus. Mais c'est vrai que, étant donné que les sternes, quand on voit leur alimentation, quand on voit revenir les proies, donc on voit que c'est essentiellement de la sardine, de l'anchois. Voilà, on sait qu'il y a une activité de pêche anchois-sardine. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de conflit d'usage, mais voilà. Après, sur l'aspect poisson, il y a plus un aspect, on va dire, climat. Et variation du climat sur quand le poisson va être là au bon moment. Là aussi, il faut nourrir les jeunes, donc il faut que le poisson soit là au moment où les jeunes sont à l'éclosion. Et c'est là qu'il peut y avoir des manques de synchronisation entre les deux phénomènes et les difficultés d'alimentation pour certaines espèces.
Oui, ça, vous le constatez aussi. Hein. Régis, je vous avais déjà posé la question au mois de décembre. Mm-hmm. Tout votre travail, évidemment, consiste à préserver la biodiversité. Vous connaissez la règle. Hein. Je demande toujours à nos invités pourquoi c'est si important, selon vous, de préserver la biodiversité, et en l'occurrence, sur ce site.
Sur ce site, réellement, là, sur cette problématique de colonies d'oiseaux d'eau, il faut voir qu'il y a un rôle très important à jouer. On a réellement sur ce site vu les effectifs à l'échelle nationale. Voilà, c'est qu'il y a un intérêt très fort. Donc ça veut dire que pour les locaux, ils sont garants d'une certaine biodiversité à une échelle beaucoup plus large que la leur. Donc ça aussi, c'est très important. Voilà, c'est bien de rester chez soi et de regarder chez soi. Mais là, il faut voir que voilà, il y a un rôle pour nous à avoir à une échelle beaucoup plus large.
Je vous remercie infiniment. J'aurai encore plein de questions, mais évidemment, le temps presse. On va devoir se quitter. Je vais vous laisser repartir vers votre belle île de Noirmoutier. Merci beaucoup, Régis Marty. On pourra réécouter très vite l'émission en podcast. Rendez-vous désormais dans un mois pour un nouvel épisode.